Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Au trouble. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Le jour pointe à peine dans la petite chambre où dort Didier, dans le grand lit avec son petit frère. Chambre minable mais propre. Le réveil sonne. Didier se réveille, mal dormi, la langue pâteuse, les idées troubles. Il se lève sans réveiller son frère. Met ses pantoufles. Prend ses vêtements qui sont sur une chaise et quitte la pièce en faisant le moins de bruit. Longe un couloir pour aller dans la salle d'eau avec ses vêtements. Ferme la porte derrière lui. Ouvre le néon qui se trouve devant le lavabo et se rase. Il déteste cela et pense que certains jeunes de 17 ans ne se rasent pas encore. Et son père l'a forcé à 14 ans de se servir de son rasoir pour qu'il s'enlève son duvet. Maintenant qu'il en a 16, la barbe est devenue dure. Il a quitté sa veste de pyjama et montre une poitrine étroite, maigre et blanche. Il est plutôt grand. Brun, yeux bleus, pas très beau, mais à 16 ans cela peut aller. Après s'être rasé, il s'habille d'un pantalon et d'un polo. Après avoir pris son petit déjeuner rapidement, il n'avait pas faim, il prend un grand sac prise unique et une serviette noire. Dehors, il fait soleil, c'est une belle journée de printemps. Il fait même un peu trop chaud pour un début de mai. Il marche d'un bon pas, l'air, le soleil lui fait du bien. Le boulevard commence à se remplir de monde qui vaque à ses occupations. Tout à coup, il s'engouffre dans une allée. Descend les escaliers qui mènent à la cave. Arrivé en bas, il se déshabille. Ouvre le sac en plastique et en sort un costume gris, une chemise blanche et une cravate grise. Il met ses vieux vêtements dans le sac en plastique et s'habille. Le sac plastique est resté dans l'allée de la cave. Mon Dieu, pourvu que je n'ai pas oublié mon argent. Il regarde dans la poche de sa veste. Il trouve un porte-monnaie. Dedans, c'est 150 francs. Je les ai. Tout va bien. Une place pour Paris, s'il vous plaît. Première ou deuxième classe? Deuxième. Merci. Il part dans combien de temps? 10 minutes. Dans quel quai? Quai 5. Merci. Didier est tout rouge. C'est la première fois qu'il part tout seul. Pourvu que ça se passe bien. Il est un peu paniqué. Où se trouve le quai 5? Il soupire. Que la gare de Perrache est grande.
Donne Zurich, son prié, changez de train. Mais les dames d'honneur, une réponse pire, d'Arzog, Fartweiter, nach Densberg, Basel. Les résidents, nach Kremlse, Solothurn, Olten, Zurich, werden gebeten, um zu steigen.
Oh, voilà, il y a un train. Est-ce bien celui-là? C'est bien marqué Paris. Mais non, il vaut mieux demander, l'on ne sait jamais. Un gros monsieur mange un sandwich à côté du train. « C'est bien là que se tient le train qui doit partir pour Paris, monsieur ?»«
Oui, jeune homme, je le prends moi aussi. »
Ils montent tous deux dans le wagon.
« Tenez, prenons ce compartiment, il n'y a personne. »
Didier aurait aimé être seul. Il a tellement de choses à penser, mais il se sent obligé de rester avec cet homme.
Je suis représentant de commerce. Et vous?
Je vais chez un ami à Paris. Heureusement, son compagnon de voyage n'est pas aussi bavard qu'il le pensait. Et Didier peut rêvasser tout en regardant le paysage. Rêvasser, cela n'est pas tout à fait le mot, mais plutôt penser. Et quelque chose inquiète. Est-ce que tous ses rêves ne vont pas s'évanouir? Il sent que tout ce qu'il a imaginé dans sa tête ne risque d'être que des choses irréelles. Non, il ne regrette pas ce qu'il a fait. La chose est faite. Et l'on ne peut pas revenir en arrière. Tant pis. Voilà des mois et des mois qu'il était torturé par ceci. S'il ne l'avait pas fait, il serait devenu fou. Le travail, la maison, les frères et sœurs. Travailler jusqu'à 7 heures du soir, ne rien pouvoir faire après. Lui qui, depuis sa plus tendre enfance, a besoin de calme, de rêve éveillé, parce que la vie ne vaut rien. Cette vie qu'il mène depuis quelque temps ne lui donne pas un instant de répit. Il ne peut rêver que pendant le trajet de la maison au travail et du travail à la maison. Le temps a changé. À travers les vitres du train, l'on voit couler une pluie fine. Didier soupire. Voilà la pluie maintenant. Il regarde autour de lui, le compartiment est plein. Le trajet lui semble long et triste. Il ouvre sa serviette et en sort un petit livre de poche. Le livre est recouvert de papier noir. Sans cela, Didier n'aurait pas osé le prendre devant tout le monde. Tout a commencé par ce livre qu'il feuillette. Il n'ose pas le relire. Il a peur de ne pas retrouver ce qu'il avait ressenti à la première lecture. Une chose l'avait pourtant déçu. Il aurait aimé que la fin soit le contraire. Mais est-ce que cela avait réellement commencé par la lecture de ce livre ? Non, cela avait commencé bien avant. C'était un soir de juin, et Didier sentit en lui un immense besoin d'avoir un ami, quelqu'un à qui il pourrait tout dire, faire, donner. Didier remet le livre dans sa serviette.
Premier service. Premier service.
Le soleil est revenu. Paris, gare de Lyon. Paris déjà ?
Eh oui, jeune homme, nous voilà arrivés.
Didier est tout troublé. Paris, oui, Paris. Mais que va-t-il faire maintenant ? Il regarde sa montre. 13 heures. Non, il n'a pas faim. marcher, marcher, voilà des heures qu'il déambule. Il a pris une tablette de chocolat et un petit pain. Il fait décidément chaud, son costume le gêne, cette chemise, cette cravate avec cette chaleur. Il décide de s'asseoir sur un banc. Où se trouve-t-il? Il n'en sait rien et ne s'en soucie pas. Les heures ont passé très vite. Il n'a même pas fait attention où il allait. Il était dans ses pensées. Regarde sa montre. 16 heures. C'est le moment de penser aux choses sérieuses. Ah, voilà enfin. Cela fait une heure qu'il cherchait. C'est la sortie des élèves. Comment faire pour le retrouver?
Tu sais, rue Monsieur Prince, c'est un quartier chouette quand même.
Et tu crois que ses parents vont laisser découcher?
Tu le tiens à moi.
Juste au moment où se pose cette question, apparaît un grand jeune homme brun, l'air décontracté. Dieu s'approche de lui. Il est très ému. Il se demande s'il ne fait pas une bêtise. Vincent! Vincent le voit enfin, surpris. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il s'approche, tremblant. Cela faisait si longtemps qu'il attendait cette minute. Il se l'était imaginé de plusieurs façons, mais pas de cette façon aussi brusque, aussi réelle. Cela l'attriste et lui coupe les jambes. Pourquoi Vincent ne le prend-il pas dans ses bras? Il murmure d'un air paumé. Tu me dis pas bonjour? N'es pas content de me revoir? Vincent s'approche, lui met la main sur le bras et lui dit avec un grand sourire. Mais si, bien sûr, je suis content de te voir. Mais que fais-tu à Paris?
Rien.
Tu es venu en touriste? Tu es en vacances?
Didier n'ose pas regarder Vincent.
Non? Je suis venu pour être avec toi.
Vincent fronce ses sourcils. Il soupçonne quelque chose d'anormal dans ceci.
Écoute, je dois rentrer chez moi. J'ai fini mes cours aujourd'hui. Nous mangerons ensemble. Viens chez moi. J'ai pas encore eu le temps de dîner, tu te rends compte?
Tu me raconteras tout ça. C'est bien la moindre des choses que je t'invite à déjeuner, non?
Il y est tout triste. Ça ne marche pas comme il l'avait prévu. Il s'était imaginé un Vincent radieux, heureux de le voir, en l'invitant à vivre avec lui.
Hé, attends, ne va pas si loin. J'ai ma voiture maintenant, regarde.
Ça? Elle est à toi?
Oui.
Mais c'est une BMW et blanche encore.
Et oui, j'ai passé mon permis il y a un mois et voilà.
Mais ça coûte cher.
Ne t'en fais pas, avec mon dernier film, j'ai touché suffisamment d'argent. Et puis, tu sais, j'ai 18 ans maintenant.
Tous deux à la cuisine. Didier est assis à table et Vincent fait cuire des œufs.
Alors, raconte-moi, Didier.
Didier se trouve tout bête et penaud.
Racontez quoi?
Pourquoi tu as eu envie de venir voir son ami?
Dans ses rêves, il n'avait pas besoin d'expliquer.
Vincent souriait et c'était tout. Mais là, la réalité, comment dire, faire comprendre que l'on rêvait, souhaitait cet instant.
Didier, qui passe plus de temps à rêver qu'à vivre ou parler, est forcé d'expliquer ses rêves.
Comme la vie est difficile.
Alors je t'écoute. Tiens, passe-moi ton assiette, que je te mette ton œuf. Tu m'excuseras, mais moi, à la cuisine. Et je n'ai pas le temps d'aller au restaurant cet après-midi. J'ai tant de choses à faire. Pas le temps. Pas le temps. Vincent n'a pas le temps. Toujours la même chose. Il faut expliquer, mais expliquer en vitesse. Didier soupire. Alors, tu parles, mon vieux? Qu'est-ce que tu es venu faire à Paris?
Rien. Te voir.
Didier est tout rouge et n'ose pas regarder Vincent. Il roule entre ses doigts de la mie de pain. Vincent s'aperçoit que Didier ne va pas. Il souffre. Il lui prend la main, celle qui roule la mie de pain.
« Allez, mange !»
Il lui sourit. « Je suis content que tu sois là. » Didier se sent tout ému. Il a les larmes aux yeux. Cela faisait si longtemps qu'il attendait cette phrase. « Peut-être est-ce que ça se passera comme dans ses rêves ?» Vincent sourit. « Pardonne-moi, tu sais, mais je suis très pris. Tous les jours, j'ai mes cours. Je tourne les dernières prises de mon film. » Il faut que je sois libre avant le festival de Cannes, car à Cannes, il faut que je présente La mort en l'air, qui est en compétition. Et après, comme je commence les répétitions d'une pièce d'un jeune auteur, Neige dans nos corps, c'est très beau, mais c'est extrêmement compliqué à jouer, si tu savais. Enfin, tu vois, j'ai pas mal de choses à faire. Si tu es libre, cet après-midi, tu peux rester avec moi. Mais je te préviens, c'est que je vais réviser, hein, pour le lycée.
Tu veux une orange?
Non, merci.
Tu n'as presque rien mangé. Après des heures dans le train, tu es arrivé à quelle heure?
13 heures.
Et qu'as-tu fait?
Rien, j'ai marché. Vincent hausse les épaules. C'est bien de toi, ça. Toujours dans les nuages.
Bon, il faut penser aux choses sérieuses maintenant.
J'ai pas envie de faire la vaisselle.
Je peux la faire si tu veux.
Chaque fois que Didier est troublé, ému ou que quelque chose l'ennuie, il détend sa gêne par un travail manuel.
C'est bien de toi, ça. Tu aides toujours ta mère à faire la vaisselle?
Oui. Ils se lèvent tous deux.
Et débarrassent la table.
C'est moi qui lave et c'est toi qui essuie.
D'accord.
Et ta mère, elle t'a laissé partir comme ça?
Il y est rougi. Je lui ai rien dit.
Ah! Vincent lui tend un torchon.
Oui, je suis parti sans rien dire.
Tiens, prends cette assiette.
Didier l'a prise et l'essuie. Vincent ne regarde pas Didier pour ne pas le gêner.
J'en avais marre.
J'ai tout fait. Il fallait que ça craque.
Je pensais sans cesse à toi. J'en avais assez de mon travail, la famille.
Et tu es parti comme cela, venir me voir?
Didier soupire.
Oui. Tu es fâché?
Vincent hausse les épaules et dit.
Non. Je suis très heureux que tu sois avec moi.
Il s'essuie les mains et prend Didier aux épaules.
Allez, viens,
lâche ton torchon, c'est fini.
Tu n'as pas visité mon petit appartement? C'est ma mère qui me l'a offert.
Vincent lui montre son petit deux pièces cuisine. L'appartement est dans un immeuble neuf. Tout est meublé d'une façon moderne et chic. Il y trouve tout merveilleux.
Vincent le prend par le cou et lui dit « Tiens, tu vois ce divan? Eh bien, c'est là que tu vas coucher. Ne t'en fais pas, va. Tu as passé un bon séjour à Paris. »
Didier sourit. « Un séjour?
Non, l'éternité. »
« Que fait-on pour ta famille? » Si tu leur dis que je suis là, ils voudront que je retourne. Ils viendront me chercher. Non, laisse. Comme tu voudras.
Ils sont tous deux au salon. Vincent lit en prenant des notes. Didier l'observe. Il est beau, Vincent. Mince, brun, yeux bleus, visage d'une beauté douce. Tout est élégant chez lui. Didier passerait des heures à l'observer. Il est tellement beau, Vincent. Le soir tombe. Vincent s'étire. Il s'est saoulé de lecture. Il regarde Didier. « Et qu'as-tu fait durant toutes ces heures ?»«
Rien. »«
Je parie que tu as passé ton temps à me regarder. »« Idiot. Tu as pari, mon vieux. Tu ferais bien en profiter. Aller voir des filles, sortir, draguer. »«
Tiens, si tu veux, je t'amène chez bébé. »« Brigitte Bardot, tu la connais ?»«
Oui, ça t'intéresse ?»
Il est aux ses épaules.
« Non. » Si je te disais, allez, viens, on va chez elle, qu'est-ce que tu dirais?
Non.
Vincent s'est levé et s'approche de Didier. Allez, viens, on va chez elle.
Non, je ne veux pas.
Idiot, il faut vivre, connaître les choses. Une femme, c'est chaud, c'est froid.
Didier rougit.
Puceau, va. Tu ne connais pas la vie. Allez, lève-toi. Il faut que j'aille chez ma mère. Vincent ressemble comme deux gouttes d'eau à sa mère, Élise Dutheil. Seule la longueur de ses cheveux différencie l'apparence extérieure. La plupart du temps, on les prend pour frères et sœurs. En ouvrant la porte de son appartement, elle est surprise de voir son fils accompagné. Didier se sent tout gêné, intimidé devant cette jeune femme, habillée d'une robe d'intérieur blanche, longue et très décolletée, avec ses cheveux bruns négligemment décoiffés. Elle les fait entrer. Vincent embrasse la mère et ils vont au salon. Didier les suit. Tout en marchant, dit Vincent, explique à sa mère.
« Mère, je me suis permis de vous amener mon ami Didier. Vous savez, celui que j'ai rencontré à Lyon lors de mon tournage. »
Elle regarde Didier.
« Oh oui, je me souviens. Enchanté. »
Ils vont tous s'asseoir au salon.
De passage à Paris.
Didier rougit et regarde Vincent.
Oui, madame.
Elle regarde le costume de Didier et le trouve un peu trop confection à son goût.
C'est bien cela. Vous restez à Paris combien de temps?
Didier ne sait que répondre. C'est-à-dire, mère, qu'il est venu tout exprès pour me voir. Avec un sourire rinçant.
C'est gentil d'être venu voir mon fils.
Le maître d'hôtel vient annoncer que le dîner est servi. Ils se lèvent tous trois. Mais avant que le domestique ne sorte de la pièce,
« Excusez-moi, André, mais vous devez mettre un couvert de plus. »«
Bien, madame. »
Didier se sent tout petit dans ses souliers et dit un mot d'excuse.
C'est moi qui dois me faire pardonner, car je ne reçois pas le lundi. J'ai préparé un repas très frugal.
Le repas se passe à peu près bien, à part de grands silences. Heureusement, Vincent raconte les péripéties de son tournage. Après le repas, Élise amène Vincent dans le salon, s'asseoir dans un divan pour parler avec lui. Il lui demande ce qu'il fait avec cette chose. « Rien, mère, il est simplement venu me voir et c'est tout. »«
Il n'est pas de notre monde. Tu ne vas pas le traîner dans tous tes endroits que tu fréquentes. Ne perds pas notre temps avec ce jeune. »
Vincent hausse les épaules. « Et non, mère, il est juste là pour quelques jours. » À 22h, Vincent et Didier sont rentrés. Ils sont tous deux en train de transformer le divan en lit pour Didier. Borde bien les draps. Là. Voilà. Tu veux une couverture? Oui. Le lit est prêt. Didier est allé dans la salle de bain se laver. Vincent lui a prêté un gant, une serviette de toilette et un pyjama, car Didier n'a rien à se mettre. Demain, ils feront les magasins. Didier dort très mal. Cette journée qu'il a vécue, toutes ces questions sans réponse, va-t-il devenir maintenant? Et chez Vincent, oui, mais pour combien de temps? Et sa famille, que vont-ils faire? Appeler la police? Les draps sont trop neufs et froids. Malgré les couvertures, il n'a pas bien chaud. Il a envie de pisser, il n'ose pas se lever. Dans la pièce à côté, Vincent dort. Il est tranquille, lui. Vers le petit matin, Didier a réussi à s'endormir. À 8h, Vincent se penche sur lui et le secoue. Didier se réveille en sursaut et voit Vincent en robe de chambre, rouge et noir, penché sur lui. « Il est l'heure, mon vieux. » Didier se lève. Vincent se soulève et va dans la salle de bain en traînant les pieds. Triste réveil, pense Didier. Même pas bonjour. Il s'assoit sur le lit improvisé. Après, Vincent réapparaît en peignoir blanc, s'essuyant les cheveux en marchant. Et bâillant.
Tu veux faire le café, s'il te plaît?
Oui. Didier se lève. Se dirige vers la cuisine. Tous deux attablés à la cuisine pour prendre leur petit déjeuner. Ils sont l'un en face de l'autre. Didier mange une tartine de miel. Il est encore en robe de chambre. Ses cheveux ne sont pas peignés, mais il a rasé de frais et sent un après-rasage très doux, presque un parfum. Le peignoir mal fermé découvre une peau blanche et lisse jusqu'au ventre. Cela trouble beaucoup Didier, surtout qu'en plus, Vincent a mis une de ses jambes sur la chaise d'à côté et le peignoir la découvre jusqu'en haut des cuisses. Je me sens mieux. Tu vois, tous les matins, tant que je n'ai pas pris ma douche et mon petit déjeuner, je ne suis pas bien. Ça t'a surpris de me voir comme ça. Un peu, surtout que tu ne m'as même pas dit bonjour. Vincent sourit. Bonjour Didier. Bonjour Vincent. Pour que le lever de Vincent soit moins triste, Didier pense qu'il faudra désormais préparer son petit déjeuner avant qu'il ne se lève. Que tu comptes faire aujourd'hui?
Je ne sais pas. Envoyer un télégramme à mes parents?
Voilà une bonne idée. Et puis?
Je n'en sais rien. Tu n'as pas envie de visiter Paris?
Non. Moi, je dois aller tourner. Viens avec moi. À 13h, nous mangerons au restaurant.
Ça te va?
Oui. Didier a écrit son télégramme simplement. « Suis à Paris, ne vous inquiétez pas. » Puis, il a accompagné Vincent à son tournage qui se passe dans un studio de la banlieue parisienne. Il n'a pas pu rester auprès de Vincent qui s'est trouvé accaparé par un groupe d'hommes et de femmes qui tournoient autour de lui. Didier a été convié de s'asseoir dans un coin obscur et à ne pas bouger. D'où, de loin, il voit Vincent sous les projecteurs, habillé redingote bleue et pantalon blanc, style 19e, entouré d'un décor représentant un salon. Il est avec une jeune fille à robe blanche. Vincent discourt quelque chose d'incompréhensible, car un homme, qui devrait être le metteur en scène, l'arrête toutes les 2 minutes pour lui faire recommencer son test, en lui donnant des indications pour la façon de le dire. Paraît interminable à Didier. Après 2 heures, on en était toujours au même point. Le metteur en scène commence à s'énerver. Vincent reste calme, mais semble fatigué.
Cela n'a pas l'air de bien aller pour notre vedette.
Didier se retourne et voit une forme noire. La personne s'avance. Didier voit apparaître un jeune homme de taille moyenne, brun, visage très agréable, habillé en manteau gris. Il paraît avoir dans les 20 ans. Il sort de sa poche un paquet de cigarettes et un briquet.
« Vous en voulez une ?»«
Non, merci, je ne fume pas. »
Le jeune homme prend une cigarette, l'allume. Il s'assoit sur une caisse qui se trouve à côté de Didier. Le dévisage avec intérêt. Didier se sent intimidé, mais quelque chose de sympathique et d'agréable qu'il trouve dans le visage du jeune homme par sa présence agréable.
« Notre vedette va se faire vider, si ça continue. Conti est très dur avec les comédiens. Il veut que lorsqu'ils arrivent au studio, qu'ils savent leur test par cœur. Il a l'impression que c'est la dernière fois que Vincent travaille avec la Gaumont. » Après ce film, ce sera fini pour lui. La troisième fois que Vincent vient sans savoir son test.
Didier le regarde surpris.
Vous êtes arrivé avec lui, je vous ai vu.
Oui.
Vous êtes acteur, vous aussi?
Non, je suis un ami, Didier Marchand.
Moi, Zamir, enchanté.
La scène a pu être enfin tournée. Didier et Zamir ne se parlent pas, mais des regards et des sourires démontre une certaine sympathie muette. Enfin, Vincent vient chercher Didier, rhabillé et démaquillé. Vincent tend la main à Zamir, puis prend Didier par l'épaule pour le mener vers la sortie. Vincent semble fatigué.
Je suis crevé. Vivement que ce film se termine, Conti est complètement fou. Il engage dans ses films des jeunes gens et comme il ne peut pas les avoir dans son lit, il les tyrannise sur le plateau.
T'as vu?
C'est celui qui était avec toi.
le grand Zamir. C'est Conti qui l'a lancé. Ils vont au restaurant. Didier sourit. Il se sent bien après des heures enfermées au milieu de la poussière, des cris. Il retrouve enfin le ciel, l'air et marche auprès de Vincent. Cela est un vrai bonheur. Qu'est-ce qui te fait sourire ainsi? Je suis bien après toutes ces heures enfermées et puis je suis avec toi. Vincent sourit. Tous deux attablés dans un bistrot-restaurant. Vincent reprit son air soucieux. Tu comprends, ce Conti, si je lui déplais, il peut me faire mettre à la porte de la Gaumont. Il est tout puissant. Un caractère impossible. Mais quel metteur en scène! Vincent soupire. Si ça ne marche pas avec lui, je suis foutu. Surtout que le film qui est présenté en Cannes ne vaut rien. Et ton père, il ne peut pas t'aider auprès de la Gaumont? Mon père ne peut rien sur Conti. Vincent regarde Didier. Pense qu'il faut qu'il s'achète des vêtements. Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? Didier hausse ses épaules. Je ne sais pas. Moi, je dois retourner au studio. Écoute, tu vas en profiter pour t'acheter des vêtements. Didier rougit. Vincent lui prend la main. Tu vas me faire ce plaisir et faire ce que je te dis. Je vais te marquer les endroits où tu vas aller. Vincent déchire un bout de nappe en papier. Il crie. Tu as de l'argent? Qui est rougi? Il en a tellement peu. Vincent sort son portefeuille et lui donne quelques billets.
Hey, vous avez du saucisson au beurre?
Oui.
Vincent et Didier viennent de dîner, la vaisselle est faite. Ils sont tous deux au salon, assis à terre. Vincent fait des réussites, Didier feuillette Télérama. Tu m'as toujours pas dit pourquoi tu voulais absolument me voir. Didier lève la tête et rougit. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien. Tu as fait tout ce voyage pour venir me voir et tu n'as rien à me dire. Didier sourit pour cacher sa timidité. Si, j'ai des choses à te dire. Alors dis-les. Je ne sais pas. Il est tout rouge. Vincent voit sa gêne et ne veut pas prolonger le supplice. Il lui dit, en lui prenant la main. Tu as tout le temps pour me les dire. Il respire. Lui dire quoi? Comment? La chose qu'il souhaite lui dire, il ne pourra jamais la lui dire. C'est impossible. Et puis, il ne demande pas grand-chose. Être auprès de lui, c'est tout, le voir vivre. Car il sait très bien que s'il demandait plus, il perdrait Vincent définitivement. Ce qu'il demande à la vie, c'est être l'ombre de celui qu'il aime. La nuit, Didier ne peut dormir. L'amour qu'il a pour Vincent, lorsque le soir tombe, devient moins pur. Il a de violents désirs de masturbation. Mais comment faire? Vincent est tout prêt et il ne faut pas salir les draps. Il ne peut pas empêcher sa main de rentrer dans son slip et de tripoter un peu son sexe. Le lendemain, Didier retrouve à la même place Zamir. Aujourd'hui, cela semble mieux se passer entre le metteur en scène et Vincent. Zamir regarde Didier et lui sourit. « Si vous voulez, je vous invite à prendre un verre chez moi. J'habite à côté du studio. » Didier hésite. « Nous n'en aurons que pour un quart d'heure. » Aller chez une grande vedette du cinéma international, cela flatte Didier. Il accepte. Samir habite un appartement dans un immeuble résidentiel tout près des studios, car il déteste trop se déplacer. L'appartement se trouve au 10e étage, pièce vaste, avec grande baie vitrée, meubles modernes. Ils sont tous deux assis au salon sur un canapé.
Vous êtes de Paris?
Non, de Lyon.
Vous restez à Lyon longtemps?
Je ne sais pas.
Samir s'est rapproché de Didier. Sa jambe touche celle de Didier. Didier a un frisson. Cela fait si longtemps qu'il n'a pas eu de rapport avec un garçon. Il ne peut pas s'empêcher de voir la grosse bosse qu'a Samir entre les jambes. Samir s'en aperçoit et sourit. Il écarte un peu plus ses jambes et met la main sur la bosse.
« J'ai envie de te faire une fleur. Tu veux ?»
Didier rougit.
« Oh, je vois, ça te ferait plaisir. J'aime faire plaisir, moi. Tu peux me toucher si tu veux. »
Didier approche la main et se met à caresser cette bosse qui durcit. Puis se plaque contre Samir et lui embrasse les joues. Tandis que ses mains se mettent à lui caresser son corps. Au bout d'un moment, Samir se dégage et ouvre la fermeture glissière de sa braguette, descend le pantalon et le slip. Mais à l'air un joli sexe, ni grand ni petit, bien fait.
Il te plaît?
Oui.
Il y en a qui le trouvent pas beau.
Non, il est très bien. Didier se penche, prend le sexe et le met dans sa bouche. D'une main, il a les couilles et de l'autre, il caresse des fesses douces et chaudes.
Samir se laisse faire, il aime cela. Malheureusement, comme cela fait longtemps que Didier n'avait pas eu de rapport, il jouit de suite. Mouille son slip. Samir n'a pas encore joui, alors il continue, mais cela ne lui fait plus rien. Samir jouit à son tour. La bouche de Didier, puis il prend son mouchoir et s'essuie.
On recommence.
Didier fait non de la tête. Il a honte d'avoir eu du plaisir avec une autre personne que Vincent. Mais cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas eu de rapport physique avec une personne. La dernière fois, ça avait été avec un jeune de 14 ans rencontré dans la rue. Ils avaient été dans une allée. Didier veut s'en aller. Samir soupire, mais ne le retient pas. Didier a honte et se demande comment il a pu faire une chose pareille. Car il aime vraiment Vincent. Il est retourné seul au studio.
Il n'est pas formidable.
76 de qui?
Durton.
Ah.
Dans l'après-midi, Vincent ne tourne pas. Il décide d'aller voir son parrain qui lui aussi est producteur de films. Il le dit à Didier au restaurant.
Tu veux m'accompagner? Je ne sais pas comment est ton parrain. Avant de répondre, Didier boit une gorgée de vin.
Pas mauvais ce petit vin.
Mon parrain, c'est un drôle d'homme. Il est vraiment formidable. Malgré ses nombreuses occupations, il a réussi à se créer un monde à lui tout à fait irréel. Il cherche à le protéger de la vie des gens. Il est un peu comme le personnage d'Arebourg. Il est comment physiquement? Il a 40 ans, grand, mince, brun, lunettes et petites moustaches, très distingué. Tous les soirs, en sortant de son bureau, vers les 20h, il rentre chez lui en Rolls, ses chauffeurs et secrétaire. Tu vois le genre. Didier fait oui de la tête. Il habite un petit hôtel particulier à Neuilly.
La première des choses qu'il fait en rentrant, c'est de se faire couler un bain. Après le bain, monsieur se met en robe de chambre et va au salon où attend Billy, son chien belge noir. Il s'allonge sur le divan, met un disque ou regarde en vidéo son seul et unique film, L'éternel retour de Jean Delannoy. Grignotant des gâteaux secs et caressant son chien qui se trouve à ses pieds, puis vers les 2 heures du matin, après s'être fait passer et repasser indéfiniment le film, il va se coucher. Si par hasard il n'a pas regardé son film, il a écouté des valses de Vienne. Voilà ce qu'il fait en dehors de son travail. Ni ne sort, ni ne part en vacances. Cet homme prodigieusement riche vit comme un ermite. Et pourquoi ? C'est son secret. Un jour, il a décidé que la solitude lui convenait. À part à son travail, il ne parle à personne. Jamais ne dit un mot à un domestique. Et jamais un domestique ne lui parle. Et toi alors ? Moi et son chien, c'est différent. Moi, c'est parce que je lui rappelle ce qu'il a été. Et Billy, c'est parce qu'un jour, il a défendu alors qu'il était attaqué dans la rue. Guy reste perplexe. Vincent le voit. Tu parais abruti par ce que je viens de te dire. Oui, il a l'air bizarre ton parrain. Vincent hausse les épaules. Ce n'est pas de grande manie. Et puis, elle nuise à personne. Pourquoi regarde-t-il toujours le même film ? Parce que ce film, lorsqu'il était enfant, lui a révélé ce que c'était que le grand amour et que l'on pouvait mourir d'amour. Alors, tu viens avec moi ? Allez, viens, va. Tu verras, il est très gentil. Radio Canut vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Eau, Trouble, dont c'était la première partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.